Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. L'Europe va-t-elle étaler ses divisions demain au sommet de Bruxelles? La crise migratoire fracture l'Union européenne et les 28 auront du mal à trouver un consensus. Dans ce journal, les explications de Marie-Pierre Véraud et le commentaire de notre invité Christophe Bouillot, professeur à Sciences Po Grenoble. Donald Trump en passe de renforcer le virage conservateur de la Cour suprême aux États-Unis. Le président américain doit nommer un successeur au juge démissionnaire Anthony Kennedy. Gregory Phillips nous appellera de Washington. En France, les députés votent la suppression du mot « race » de la Constitution. La commission des lois a en revanche introduit l'interdiction de distinction de sexe. Nous verrons cela avec Christine Monclat. La crise migratoire sera donc au cœur du Conseil européen qui s'ouvre demain à Bruxelles, un conseil initialement consacré à la réforme de la zone euro et au Brexit, mais l'ampleur des divisions européennes sur la question des migrations a changé la donne, avec un tournant majeur dans cette crise, l'arrivée au pouvoir des populistes en Italie et leur refus d'accueillir désormais les navires des ONG qui recueillent les migrants en Méditerranée. Face à cette crise sans précédent, Emmanuel Macron dramatise l'enjeu du sommet de Bruxelles, faute d'accord entre les 28, l'Europe sera en danger, estime le président français. Marie-Pierre Véraud, sur quelle base la France entend-elle parvenir à un tel accord ?
Pour tenter d'avancer malgré les clivages, Paris entend promouvoir trois axes. L'action extérieure, en amont, dans les pays d'origine et de transit, en Afrique essentiellement, pour décourager les départs. La protection des frontières de l'Union ensuite, avec le renforcement des moyens de Frontex et la création de centres fermés dans les pays d'arrivée, essentiellement l'Italie, l'Espagne et la Grèce, pour faire le tri entre les candidats à l'asile qui ont des chances d'obtenir le statut de réfugié et les migrants économiques, la grande majorité des nouveaux arrivants, dit-on à l'Élysée, qui, eux, devront être renvoyés. Troisième axe, la solidarité européenne dans l'accueil. C'est sur ce versant solidaire que le bât blesse. Les 28 sont globalement d'accord pour renforcer leurs frontières et renvoyer les déboutés de l'asile, intégrer ceux qui sont là, accueillir les nouveaux arrivants, même si leur nombre est très faible. Voilà qui continue de diviser. On sait que l'Italie attend de ses partenaires qu'ils partagent avec elle l'accueil, elle qui reçoit l'immense majorité des migrants gagnant l'Europe, quand les pays d'Europe orientale se montre rétif à toute solidarité imposée. Comment dès lors imaginer un accord à 28 ? Une solution pourrait peut-être se dessiner, d'abord par des accords bilatéraux, ensuite en imaginant différentes formes de solidarité. Si le principe de la solidarité est intangible, les modalités, entend-on, peuvent se discuter. Ceux qui ne veulent pas se voir imposer de quotas de réfugiés pourraient ainsi, à la place, contribuer financièrement davantage à Frontex, à des actions de formation des gardes de côte libyen pour qu'ils retiennent les migrants, etc. Les quatre de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, peuvent-ils être séduits? En tout cas, Emmanuel Macron a prévu de les rencontrer dès son arrivée, avant le début du Conseil.
Marie-Pierre Véraud, merci. Et ce soir, le navire humanitaire Lifeline a pu accoster dans le port de la Valette à Malte avec 233 migrants à bord. Le bateau de l'ONG allemande du même nom s'était heurté au refus des autorités italiennes de l'accueillir. Hier, Emmanuel Macron avait accusé l'ONG de faire le jeu des passeurs en allant chercher des migrants au large de la Libye. On va revenir sur les enjeux du sommet de Bruxelles avec notre invité Christophe Bouillot, professeur à Sciences Po Grenoble, spécialiste de l'Italie et de l'Union européenne. Bonsoir.
Bonsoir.
Christophe Bouillot, peut-on effectivement imaginer un accord entre les 28 sur la question migratoire, ne serait-ce que pour sauver la face ?
Oui, il est probable que les 28 cherchent un accord à tout prix, dans la mesure où pratiquement aucun Conseil européen des dernières années ne s'est fini sans accord. Donc, sur cette question migratoire, sur laquelle il n'y a pas véritablement d'opposition de fond entre Européens, il est probable qu'on arrive à un accord.
Un accord sur des bases de renforcement de la lutte contre l'immigration illégale ?
Oui, bien sûr. Le point finalement partagé par l'ensemble des 28, c'est que l'immigration illégale est une nuisance pour l'Europe et que de toute façon cette immigration illégale doit être réduite le plus possible. L'immigration illégale zéro serait l'idéal partagé par tout le monde.
Ça, c'est un tournant dans l'histoire de la construction européenne. Il n'y a plus cette politique d'ouverture en direction des immigrés finalement.
À vrai dire, non. Au contraire, la politique de fermeture vis-à-vis des immigrés illégaux venant d'autres parties du monde est une politique qui a au moins été inaugurée dans les années 90. Dès l'époque de Tony Blair, qui est un peu pionnier sur ce point, il y a l'idée de créer une sorte de glacis autour de l'Europe, d'États qui contrôleraient à la place de l'Europe ces migrations. Et en fait, ce qui se passe depuis 2011, c'est qu'une partie du glacis a explosé, en particulier le fait que la Libye de Kadhafi a été déstabilisée, a déstabilisé une partie du glacis.
Et la politique d'Angela Merkel apparaît finalement comme une anomalie dans cette tendance européenne ?
Oui, largement. C'est une anomalie par rapport aux tendances longues et de refus de l'immigration, en dépit même du fait d'ailleurs que l'immigration serait nécessaire à l'économie européenne par bien des côtés. Mais en tout cas, du point de vue politique, la tendance au refus de l'immigration, comme en tout cas l'immigration illégale, remonte au moins aux années 90.
Christophe Bouillot, aujourd'hui, on peut dire que c'est l'Italie qui a pris la tête du front du refus sur les questions migratoires avec l'arrivée au pouvoir des populistes à Rome ?
Alors, c'est pas l'Italie qui a pris le front du refus, c'est plutôt l'Italie qui est placée en première ligne et dont les gouvernants, effectivement, comme les précédents d'ailleurs, sont à la recherche d'une solution qui permette d'éviter cette vague migratoire qui arrive en Italie. Il faut se rappeler que la vague migratoire a beaucoup diminué depuis quelques mois, depuis à peu près un an, sous la pression du ministre de l'Intérieur italien Minniti, donc du gouvernement précédent, qui avait pris en fait langue avec les autorités libyennes, qu'elles soient les autorités plus ou moins légales ou paralégales, pour faire en sorte que le minimum de migrants puissent sortir de Libye.
Est-ce que cela signifie que les populistes sont aujourd'hui majoritaires au sein de l'Union européenne au détriment de ceux que l'on pourrait appeler les européistes comme Emmanuel Macron ?
Alors, bien sûr, du point de vue politique et numérique, les populistes, entendus comme l'extrême droite, restent minoritaires à l'échelle de l'Union des 27 ou 28 pays. Par contre, il faut bien constater que ce sont leurs idées, leurs enjeux, c'est-à-dire le refus de l'immigration à tout prix, qui l'emportent très largement dans les opinions publiques, à quelques exceptions près, c'est-à-dire en réalité les deux pays du sud de l'Europe que sont l'Espagne et le Portugal.
Et Emmanuel Macron, vous le situez où ?
Alors, Emmanuel Macron s'est fait élire sur un discours, comme on le sait, d'ouverture au monde, de mise en avant plutôt des avantages de l'Europe, et en fait, dans sa pratique, à en croire les ONG françaises et internationales, il a une politique qui est tout à fait en ligne avec les autres pays européens dominés par la droite qui sont effectivement un refus assez prononcé de toute immigration illégale.
Christophe Bouillot, le Conseil européen de Bruxelles devrait aussi discuter de la réforme de la zone euro. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont proposé la semaine dernière la création d'un budget de la zone euro. Est-ce que cette proposition est susceptible de rassembler les Européens ?
Alors, il faut signaler d'abord que c'était le premier thème du Conseil en principe, et finalement l'immigration s'est invitée en haut de l'agenda à travers les événements. Alors, pour ce qui est de la réforme de la zone euro, il y a eu un accord franco-allemand. Malheureusement, cet accord franco-allemand risque de se heurter à une très vive opposition de la part de toute une série de pays du nord de l'Europe, emmenés par les Pays-Bas, qui refusent absolument d'entrouvrir la porte à toute idée d'un budget commun. C'est-à-dire qu'ils sont sur la même ligne que les Allemands les plus conservateurs, qui est le refus absolu de l'union de transfert. Et là, probablement, le compromis qui sera trouvé sera un compromis véritablement à bas niveau ou un renvoi à une discussion ultérieure.
Christophe Bouillot, professeur à Sciences Po Grenoble, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. La question migratoire domine aussi l'agenda politique aux États-Unis et Donald Trump a enregistré ce soir un revers puisque la Chambre des représentants a rejeté à une très large majorité la réforme de l'immigration défendue par le président américain. Plus d'une centaine d'élus républicains majoritaires à la Chambre ont voté contre le texte qui visait à limiter l'immigration légale. Donald Trump pourra se consoler avec ce bouleversement à venir à la Cour suprême. L'un des 9 juges, Anthony Kennedy, va prendre sa retraite le mois prochain. Et en nommant son successeur, le président américain a l'occasion de renforcer l'ancrage de la Cour dans le camp conservateur. Les explications de Grégory Phillips.
Anthony Kennedy avait été nommé à la Cour suprême des États-Unis par Ronald Reagan en 88. Aujourd'hui, le juge a 81 ans et il vient d'informer Donald Trump qu'il prendrait sa retraite le 31 juillet pour des raisons qu'il ne dévoile pas. Au sein de la Cour suprême, le juge Kennedy était un modéré, celui qui souvent faisait la différence entre les libéraux et les conservateurs. Il y a 9 juges à la Cour suprême. C'était souvent sa voix qui faisait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Kennedy sur le départ. Un nouveau juge sera donc nommé par le président le plus vite possible, peut-être avant les élections de mi-mandat en novembre. C'est la deuxième fois que Trump va ainsi procéder à la nomination d'un juge à la Cour suprême, après celle de Neil Gorsuch, connu pour ses idées ultra-conservatrices. Les juges sont nommés à vie. Chaque nomination est donc scrutée de très près ici, car elle peut avoir d'importantes conséquences politiques et sociétales.
Grégory Phillips, correspondant à Washington. En France, le mot « race » va sans doute disparaître de la Constitution. En tout cas, les députés qui planchent en commission des lois sur la réforme constitutionnelle ont retiré le terme de l'article 1er. Christine Moncla, à la place de cette notion de race, les élus ont inscrit une interdiction, celle de distinguer les sexes.
Alors ce n'est pas exactement à la place d'eux, ce serait plutôt une double modification qui est proposée simultanément et qui est censée signer, c'est vrai, une évolution de la société française telle que la souhaite Emmanuel Macron, une société du 21e siècle où l'égalité homme-femme doit être érigée en principe constitutionnel. C'est ainsi que cet article 1er, s'il est validé dans la suite du calendrier parlementaire, stipulerait que les êtres humains ne peuvent être distingués ni par leur sexe, ni par leur origine, ni par leur religion et donc plus par leur race, comme l'écrivait jusque-là la Constitution. Cette référence en négatif à la race avait été inscrite au lendemain de la guerre et des crimes nazis, mais aujourd'hui, ce mot dérange, il est mal compris, infondé de surcroît par les sciences, expliquent les députés signataires. Ce sont 6 amendements de groupes politiques différents qui ont donc été adoptés hier à l'unanimité en commission des lois. À l'unanimité, malgré des réticences persistantes qui portent toujours, et depuis des années déjà, sur l'utilisation que pourrait faire l'extrême droite de la suppression de ce mot. La LICRA, elle, pointe un autre atout de ce vote, celui de désamorcer la nouvelle langue néocoloniale qui redonne à la race une sorte de nouvelle jeunesse, comme l'écrit le président de l'association dans le journal Le Monde. Il évoque, pour sa part, les racialistes de l'ultra-droite, bien sûr, mais aussi les mouvements qui se disent aujourd'hui racisés.
Christine Moncla, merci. À noter que les députés de la Commission des lois ont rejeté un amendement visant à féminiser, le cas échéant dans la Constitution, les titres de fonction comme présidente, première ministre ou bien ambassadrice. Après le coup de filet dans les milieux de l'ultra-droite le week-end dernier, 10 membres d'un groupuscule sont présentés ce soir à un juge d'instruction. Le parquet a requis leur mise en examen et pour 9 d'entre eux, la détention provisoire. Ces individus sont soupçonnés d'avoir voulu attaquer des musulmans. On fait le point sur ce dossier avec Laurent Doulsan.
Les membres du groupe Action des Forces Opérationnelles se préparaient très concrètement à passer à l'action contre ce qu'ils appellent le péril islamique. C'est ce que tentent à prouver les gardes à vue et les perquisitions menées chez ces 10 personnes, interpellées le week-end dernier dans plusieurs régions de France. Les enquêteurs ont retrouvé chez eux 14 armes de poing et 22 armes type fusil ou carabine, des milliers de cartouches et des grenades à plâtre, du matériel et des produits entrant dans la composition d'explosifs puissants comme le TATP ont également été retrouvés au domicile et dans la voiture de l'un des mis en cause. Certains de ces explosifs, de confection artisanale, auraient même été testés pour s'assurer de leur efficacité. Les membres d'AFO se réunissaient enfin régulièrement pour échanger sur leurs objectifs ou se proposer des stages de combat, de secourisme et de survivalisme.
Laurent Doulsan. C'est devant les caméras qu'Emmanuel Macron a promulgué aujourd'hui la loi qui réforme la SNCF. Le président a promis de répondre, je cite, aux inquiétudes légitimes des cheminots. La grève unitaire s'achèvera demain avec une 36e journée aux perturbations qui s'annoncent limitées. Aujourd'hui, le taux de grévistes est tombé à 8,4% contre près de 34% au début du conflit, selon des chiffres fournis par la direction. Si la CFDT et l'UNSA arrêtent la grève demain, la CGT et Sud ont annoncé 2 nouvelles journées d'action à la SNCF les 6 et 7 juillet prochains. On termine avec la météo. Le temps demain restera chaud et ensoleillé partout, à l'exception d'un risque orageux sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse. Les températures minimales iront de 12 à 22 degrés de la Manche à la Méditerranée. Les maximales seront estivales de 26 à 32 degrés du nord au sud. Il fera un peu plus frais en bord de Manche de 21 à 25 degrés. 5 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.